Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple, qui que vous soyez, vous êtes ici chez vous, accueillis par Dieu lui-même, qui nous comble de sa grâce et de sa paix en Jésus-Christ. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le chant du psaume 107 dans les nouveaux recueils du psautier français. Nous chantons donc le psaume 107, « Louez Dieu pour sa grâce », les trois premières strophes. Voici comment le Seigneur nous invite à vivre notre foi. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En présence de Dieu, nous nous unissons dans la prière. Oui, Seigneur, donne-nous ton esprit et ouvre nos esprits à ta vérité. Nous venons vers toi, Seigneur, pour chercher une intelligence qui nous dépasse, pour trouver le sens qui nous échappe à toute chose, et pour renouveler en nous ton esprit, afin qu'en nous-mêmes se trouve cette source de vie, de joie, de paix, de confiance qui nous vient de toi. Mais il y a en nous bien des obstacles entre toi et nous, bien de l'indifférence, bien de l'égoïsme, bien de la bêtise aussi parfois. Aussi nous te demandons ton pardon et ton aide. Seigneur, nous sommes incapables de te connaître parfaitement, mais viens toi-même te révéler à nous, viens faire ta demeure en nous pour que nous puissions vivre par toi, libres et joyeux. Amen. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aussi, nous pouvons fonder notre foi sur cette assurance, qui est que qui que nous soyons, Dieu nous donne toujours sa grâce, nous donne son pardon et nous comble de son amour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Et en réponse à cette grâce de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous confessons notre foi en lui. Je crois en Dieu par Jésus-Christ, lui qui est chemin, vérité et vie. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le pain de vie, ce pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il est le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen. pouvez vous asseoir. Comme en ce moment, c'est un temps de vacances pour beaucoup, et que pendant les vacances, on est un peu paresseux, j'ai voulu prêcher aujourd'hui sur le chapitre le plus court de la Bible. Comme ça, ça ne me fera pas trop de travail. C'est en fait aussi un psaume, c'est le psaume le plus court de la Bible aussi, puisqu'il ne fait que deux versets, c'est-à-dire deux lignes. Il s'agit du psaume 117, le voici. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car puissante est pour nous sa bonté et sa fidélité est pour l'éternité. Louez l'Éternel. Et pour compléter cela, je vous lirai néanmoins deux autres passages. Tout d'abord, dans l'Épître aux Romains de Paul, au chapitre 15, les versets 8 à 13. Ce que je dis, c'est que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu pour sa bonté, selon qu'il est écrit, citation du psaume, « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je te chanterai en l'honneur de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. » Ésaïe aussi a dit, « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et puis encore, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour, il ne consiste pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés en premier et qu'il nous a envoyé son Fils pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et nous chantons dans les vieux louanges et prières le numéro 248, « Ô donne-moi, Seigneur, pour célébrer ta grâce, un cœur de tout mal détaché », les trois premières strophes du numéro 248.
Seigneur, pour célébrer.
Maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter. Viens toi-même parler à notre cœur et permets, avec l'aide de ton esprit, que les paroles humaines que nous partageons puissent devenir pour nous paroles de Dieu et paroles de vie. Voici donc le psaume le plus court de tout le psautier. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car puissante est pour nous sa bonté, sa fidélité est pour l'éternité, louez l'Éternel. Je connais depuis longtemps ce psaume, tellement court qu'il a évidemment toujours attiré mon attention. Mais j'avoue avec humilité que ce psaume m'a toujours ennuyé, c'est-à-dire que je n'y ai jamais trouvé grand sens. Il y a des psaumes bouleversants, pleins de tendresse, pleins de douceur, pleins d'espérance, d'amour, et celui-là me semble, je dirais, un pur jus de langage ecclésiastique, de langue de bois psalmique. Je n'ai jamais réussi à y trouver grand-chose de vraiment passionnant, pour tout vous dire. Mais néanmoins, j'ai appris à me méfier des choses trop simples, et en particulier quand, dans l'Écriture, dans la Bible, on trouve des passages qui semblent n'être sans intérêt, il faut toujours au contraire redoubler d'attention. Et ce, dans ce cas d'autant plus que d'abord, ce psaume est l'un des très rares cités dans le Nouveau Testament. C'est quand même un honneur qui n'est pas offert à tous les psaumes. Et puis en travaillant dans ma bibliothèque, j'ai découvert que Luther, en 1530, avait fait un commentaire du psaume 117. Et que ce commentaire était tellement développé qu'il en a fait tout un livre. Alors je me suis dit, mais comment peut-on écrire un livre entier sur deux versets sans intérêt ? Alors j'ai lu Luther, j'aurais peut-être dû commencer par là, et j'ai trouvé qu'effectivement, quand on regarde un peu plus précisément, c'est-à-dire si on sort sa loupe spirituelle et qu'on regarde ce psaume de plus près, on y trouve des choses absolument passionnantes. Et s'il a tellement plu à Luther ce psaume, c'est qu'il y voyait le fondement de toute la théologie réformée, voire même le fondement de toute, je dirais, la pensée de Luther, de la pensée réformatrice, et en fin de compte, le résumé, la confession de foi de ce que nous prêchons jour après jour dans nos temples. Alors regardez d'abord, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Ça semble rien, mais c'est déjà beaucoup, parce que le mot « nation » qui se trouve là, c'est un mot hébreu qui est probablement un des rares mots que vous connaissez, c'est « goyim ». Et les goyes, qui est-ce ? Ce sont les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Autrement dit, nous avons déjà une chose étonnante, c'est que le psaume commence par dire « vous tous les païens, louez l'Éternel ». Et là, Luther dit « c'est une prophétie ». Parce que dans l'Ancien Testament, ne louaient l'Éternel que les Juifs. Et ensuite, c'est Jésus qui a ouvert, je dirais, l'économie du salut aux païens. Et c'est grâce à l'Évangile, grâce au Christ, que nous, enfin en tout cas moi, ou probablement beaucoup d'entre vous, qui n'êtes pas Juifs, vous êtes invités à participer à l'économie du salut du Dieu d'Israël. Nous sommes invités à rentrer dans le peuple élu, par adoption en quelque sorte, pour louer l'Éternel, c'est-à-dire pour louer le Dieu d'Israël. Et ça, c'est une révolution considérable. Parce que dans l'ancien judaïsme, comme encore à peu près aujourd'hui, on était dans la religion, dans le peuple élu, par filiation, c'est-à-dire qu'on est juif si ses parents sont juifs. Et Jésus va bouleverser tout ça en disant « La religion, ce n'est pas une question de gêne, ce n'est pas une question d'hérédité, mais une question de choix personnel. C'est une question de choix personnel. Et donc, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et qu'il ne suffit pas d'avoir des parents ou des ancêtres chrétiens pour être chrétien, et il ne suffit pas d'avoir des ancêtres protestants pour se dire protestant. Non seulement il ne le suffit pas, mais ça n'est même pas indispensable. Ou alors nous reprendrions la même logique en disant « Moi, je suis vraiment protestant parce que j'ai un ancêtre inscrit sur le mur de ceux qui ont été envoyés aux galères, au musée du désert, ou je ne sais quoi. » Mais le protestantisme et le christianisme ne sont pas des religions héréditaires. Ce sont des options personnelles. Et on choisit effectivement de vouloir adorer le Dieu de Jésus-Christ ou pas. Alors vous voyez, c'est à la fois une promesse extraordinaire de dire, eh bien, vous êtes tous bienvenus, quelle que soit votre histoire, quels que soient vos antécédents, quels que soient ce en quoi croit votre famille. La question aujourd'hui, c'est vous, en quoi croyez-vous? Et ça, il faut avoir aussi le courage, et c'est là donc une promesse agréable, mais aussi une exhortation, le courage à un moment donné de dire, en question de religion, c'est moi qui décide pour moi. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis croient en ce qu'ils veulent, ils appartiennent à ce qu'ils veulent. Pour une fois, si j'ai un choix que je peux faire pour moi, c'est celui-là. Et donc, ça nous invite à faire ce choix, je dirais, d'une façon libre et volontaire, en se positionnant par rapport à un message. Et donc, la transmission de la foi ne se fait plus par les gènes dans le Nouveau Testament, mais elle se fait par la parole, c'est-à-dire par la transmission d'un message auquel on adhère ou pas. Et c'est pourquoi il faut comprendre que l'essentiel de notre Église, elle est effectivement fondée sur la parole. Et c'est pourquoi aussi dans la Réforme, on a dit « le centre du culte, c'est la prédication ». Et c'est pourquoi dans cette Église transformée en Église protestante, nos prédécesseurs ont mis une énorme chaire au centre, très haute, en disant « c'est ça la base de notre foi ». Ce ne sont pas des rites, des actes religieux, des sacrements ou autres, c'est la prédication de la parole. Écoutez la parole, lisez l'Évangile et dites si vous croyez ou non dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi également, dans nos paroisses, la chose la plus essentielle, c'est effectivement la transmission de la parole, c'est-à-dire la prédication et aussi les catéchismes. Les catéchismes, c'est donner aux enfants le ferment de la parole. Ils en feront quelque chose ou rien, mais si on ne leur donne pas la parole, comment croiront-ils? Une fois de plus, la religion n'est pas héréditaire, et ce n'est pas parce qu'on est baptisé à 3 mois que forcément on découvre que Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour soi. Et ça, c'est toute l'idée du Nouveau Testament, et de Paul en particulier, qui va développer ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, quand il dit « Il n'y a aucune différence » entre le juif et le païen, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il continue en disant, mais comment invoquerait-il celui en qui il n'aurait pas cru? Et comment croirait-il en quelqu'un dont il n'aurait pas entendu parler? Et comment entendrait-il parler s'il n'y avait personne pour prêcher? Alors donc, voyez-vous, il y a cette nécessité aussi pour nous de porter la parole partout. Et du coup, non seulement nous croyons parce que nous recevons une parole, mais aussi nous sommes invités à ne pas être des rameaux stériles et à transmettre. Et comment pouvons-nous transmettre? Eh bien, en transmettant une parole. Alors ça, c'est essentiel, et effectivement, c'est païen. Louez l'Éternel, vous, les païens. Et là encore, il y a encore autre chose qu'on peut y voir. C'est que le psaume ne dit pas que les païens aillent à Jérusalem pour louer l'Éternel. le psaume dit juste « les païens qui louent l'Éternel », sans préciser. Et là encore, autre grande nouvelle, essentielle, fondamentale et fondatrice de, je dirais, de l'Évangile et de notre foi protestante, c'est qu'il n'y a pas de lieu particulier pour adorer l'Éternel. Le psaume ne dit pas que les païens courent au temple, à la synagogue, à Jérusalem pour adorer l'Éternel, mais qu'ils louent l'Éternel, eux, les païens, là où ils sont. Et donc, nous pouvons louer Dieu partout, là où l'on est. Le psaume continue en disant « Célébrez-le, vous tous les peuples ». Et donc là, on a un autre mot. Tout à l'heure, c'était les nations, les nations païennes. Ce coup-ci, ce sont les peuples. Et là, c'est plus compliqué parce que ce mot « peuple », il vient du mot « mère ». En effet, « âme », c'est le peuple et « âme », c'est la mère. Et donc, ces peuples dont il est question là, on pourrait dire pour nous en français que c'est comme la mère patrie. Et Luther dit, puisque Luther connaissait apparemment l'hébreu, trois mots, en tout cas plus que moi, et j'ai vérifié qu'il avait raison, le traître. Il dit « âme, le peuple, ça désigne le peuple dans sa structure politique et avec son organisation sociale. » Et il a raison. Et du coup, cela veut dire que chaque peuple, dans sa structure politique et dans son organisation sociale, est invité à louer Dieu. Et là encore, il n'est pas question donc pour un peuple d'abandonner son organisation ou sa structure, mais le peuple organisé comme il est peut louer l'Éternel à sa manière. Cela veut dire que chaque pays, chaque peuple peut louer l'Éternel sans avoir, je dirais, à se restructurer autrement pour adorer Dieu d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas à imposer à un peuple une organisation particulière, mais on peut louer Dieu comme on est dans son pays et dans sa culture. Et là encore, c'est quelque chose auquel la pensée réformée a toujours été très attachée. C'est ce qu'on appelle la théologie de la culture, et de dire il n'y a pas à déculturer les gens en leur disant que devenir chrétien, c'est forcément renoncer à sa vie dans le monde où l'on est, mais que c'est dans le monde où l'on est, avec sa culture, ses traditions et sa nature, eh bien, adorer l'Éternel. C'est la seule chose qui compte. Et du coup, effectivement, je crois que notre religion doit s'adapter à la culture et doit aussi s'adapter au temps moderne. C'est-à-dire que notre foi doit, avancer avec le monde, mais sans jamais oublier d'adorer l'Éternel. C'est ça. Louer, célébrer l'Éternel, tous les peuples. En effet, tous ces peuples pourraient courir un danger. C'est de célébrer non pas l'Éternel, mais leur chef, leur roi, leur empereur. Et là, le psaume dit bien, d'accord, vous avez votre organisation. Eh bien, tout ce que je vous demande, c'est de célébrer non pas votre organisation ou votre chef, mais l'Éternel. Et ainsi, il ne faut pas croire que sous prétexte que l'on veuille s'adapter à la culture ambiante, on soit néanmoins à la remorque de la culture ambiante. C'est de vivre dans notre culture ambiante en célébrant l'Éternel. Le danger, ce serait de faire de notre pays, de notre culture, de nos habitudes, de notre modernité, d'en faire une sorte de religion, comme si ce en quoi nous croyions, c'était notre structure démocratique, c'était nos habitudes dans le vent, les progrès de la morale, entre guillemets, ou je ne sais quoi. Mais non, on peut adopter la culture de son pays, mais l'important, c'est de toujours célébrer l'Éternel. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi, je vous ai dit, il faut lire ce psaume avec une loupe, vous remarquerez aussi que le mot « peuple » est au pluriel. Vous, tous les peuples. Et donc, là encore, le psaume ne dit pas « il faut que tout le monde vienne venir dans le peuple qui est Israël. Am Haaretz, le peuple de la terre, ou le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. » Il dit « vous, les peuples ». Et donc, le psaume, et ça c'est très moderne, admet une diversité et une pluralité de peuples. Et ça, c'est assez important, par exemple même pour l'écuménisme aujourd'hui. Parce que l'écuménisme, parfois, voudrait nous faire croire que le but, ce serait d'avoir une seule organisation, un seul peuple chrétien réuni autour d'un seul berger avec une hiérarchie. Certains le croient, le psaume 117 croit le contraire, Luther aussi et moi aussi. On peut avoir différentes organisations, on peut avoir différentes églises, vous êtes protestant, vous êtes catholique, vous êtes arménien, vous êtes copte ou je ne sais quoi, je m'en fiche et Dieu s'en fiche. Louez l'Éternel et puis c'est tout, là où vous êtes. Et donc recherchez justement quelque chose qui est au-dessus de vous, recherchez ce Dieu, l'Éternel, qui est le Dieu qui nous libère, qui est ce Dieu qui vient à nous comme le Dieu qui vient parler à Moïse sur l'Horeb en disant « Je vois la misère de mon peuple et je viens pour le libérer, sans condition, sans question, juste par sa volonté et par sa grâce. » Et donc, mettez-vous sous le regard de ce Dieu de grâce et de libération qui est la seule chose qui compte dans notre vie. Ensuite, il y a encore autre chose. C'est que, je vous l'ai dit, ces nations, donc ces peuples, restent comme ils sont humainement et qu'on ne leur impose aucune judéité, aucune uniformité. Mais cela montre aussi que la royauté du Christ, eh bien, elle doit être au-delà de ces questions justement de peuple, de nation, de religion, d'appartenance et de structure humaine. Et c'est là où évidemment Luther s'est engouffré. Je vous ai dit, il en a fait un livre entier, je vais essayer de faire un peu plus court pour ne pas vous lasser. Mais en gros, on arrive dans une grande idée de Luther, qui est ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. Vous savez, Luther disait, il y a le règne de Dieu, c'est le règne de l'Évangile, de la grâce et de l'amour, et puis le règne matériel, ben oui, il faut bien que les pays aient des lois, il faut bien qu'il y ait des organisations, et il faut bien que si des gens transgressent les lois humaines, eh bien on les punisse. Mais ce n'est pas le même règne. Et transgresser la loi civile, peut-être une erreur, mais n'est pas un péché, en quelque sorte. Et donc Luther a voulu séparer ces deux règnes. Et c'est ça l'idée, justement, une fois de plus. C'est que les peuples gardent leurs droits, leurs coutumes, leurs lois, leur culture, mais il y a un but plus élevé, qui est de louer l'Éternel. Et ainsi, le but pour chacun, c'est de rester dans son métier, dans son activité humaine, et de louer l'Éternel. Il ne dit pas « faites votre métier seulement et contentez-vous de faire votre métier », mais que dans son métier, dans son appartenance à une corporation ou à quoi que ce soit, il y a un but plus élevé qui soit la louange à l'Éternel. Et ça, c'est vrai même par rapport à toutes les lois morales, les lois civiles, les lois morales, les lois religieuses, de toujours aller au-delà pour louer l'Éternel. Alors on peut avoir des lois, des exigences, on peut avoir des structures d'église, mais il ne faudrait pas croire que ce serait que l'enjeu d'être chrétien ou l'enjeu de la réussite ou du sens de sa vie serait de respecter ces règles. Il n'est pas la question d'obéissance, il n'est pas question de loi. Dans ce psaume, nulle part, il n'est question ni d'obéissance, ni de loi, ni de jugement, simplement de louer Dieu. Donc les lois, les exigences, c'est important, mais ça n'est pas l'essentiel. Ça ne donne pas de sens, ce n'est pas un enjeu ultime. La morale, ça consiste à voir comment on peut faire au mieux dans ce monde, mais la morale est une conséquence de notre foi, elle n'en est pas, je dirais, la cause. Et puis Luther continue dans ce psaume en disant que toute sa théologie, finalement, repose sur un tout petit mot, qui est le mot qui est pile au centre du psaume. Ce mot, c'est « car », parce que. En effet, le psaume dit donc « louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car, dit-il, la bonté, l'amour de l'Éternel est immense. » C'est-à-dire que, voyez-vous la chose essentielle, le « car », la raison pour laquelle nous pouvons louer Dieu, c'est que sa bonté est grande et que son amour est puissant. Et là encore, c'est toute la théologie de la Réforme. Parce que les prédicateurs médiévaux, au Moyen-Âge, disaient aux gens « Faites des bonnes œuvres, faites le bien, pour que Dieu vous aime et pour être sauvé. Et les réformateurs ont tout inversé en disant il ne s'agit pas de faire le bien, de pratiquer des œuvres religieuses ou de louer Dieu pour qu'il nous aime, mais nous pouvons louer Dieu et nous pouvons faire le bien parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a déjà sauvés. Et donc vous êtes sauvés par grâce, ça c'est offert. Et cette grâce doit être la cause de votre capacité à faire le bien. Et donc les réformateurs ont complètement inversé le système médiéval en faisant l'amour de Dieu, non pas, je dirais, le mat de cocagne, le saucisson en haut du mat de cocagne qu'il faut essayer de gagner en grimpant sur le mât glissant, mais l'amour de Dieu comme étant le fondement de notre capacité même à pouvoir un jour faire le bien. Ça, c'est fondamental. C'est redit dans la première épître de Jean. Explicitement, quand Jean dit « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier ». C'est ça, voyez-vous. Et c'est pour ça aussi que nous baptisons les bébés, parce que le baptême d'un bébé, c'est un signe d'amour, et nous disons « C'est l'amour qui est premier ». Et avant même que nous en ayons conscience, déjà, Dieu nous aime. Et la vie chrétienne consiste non pas à essayer de gagner l'amour de Dieu, mais d'apprendre à y répondre. Donc vous voyez que là, ce psaume, en mettant le « car l'amour de Dieu est immense », est essentiel. Il n'y a pas un mot dans ce psaume d'un éventuel jugement, pas un mot de menace. Il n'y a aucun mot même sur les éventuels mérites de la sagesse, de la pratique ou de la loi. Rien sur les œuvres, juste un amour inconditionnel qui est la cause de toute notre vie religieuse. Et c'est cela, pour cela d'ailleurs que Paul cite ce psaume en Romains 15, verset 9, quand il dit, je vous le relis parce que remis dans le contexte, ça redonne du sens, « Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de son amour, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom, il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, » là il cite le psaume 117, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Alors on ne comprend pas pourquoi là tout à coup Paul cite ce psaume 117, sauf si on connaît la fin, qui justement précise ce qu'il essaye d'exprimer, qui est qu'on peut glorifier Dieu à cause de son amour. Donc vous voyez que ce psaume 117, bien que tout petit, est fondamental. Parce que si vous vous êtes un jour plongé dans les psaumes, vous avez vu que juste après, le psaume 119 est le plus long de tous les psaumes. Et ça, au contraire, c'est un psaume de loi, de commandement, de règles, de justice et de tout ça. Et on a, je ne sais plus, 150, 180 versets de commandements, de lois, d'observance, de jugement et de choses comme ça. Eh bien, il est essentiel de voir qu'on ne peut entendre la loi que si déjà, à la base, on se sait pardonner, aimer et libérer. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'enjeu fondamental de savoir est-ce que serais-je juste, serais-je non pécheur, serais-je bon, mais de comprendre que c'est libéré et pardonné que je me tourne vers Dieu en disant « Mais Seigneur, que ferais-je pour te servir et pour agir dans ce monde d'une façon positive ?» Et c'est là, vous voyez, où les psaumes ont en eux-mêmes, je crois, toute la théologie de l'Évangile. Ce psaume est extrêmement fort également, parce qu'il va à l'encontre de la tendance humaine. En effet, ce que nous aimerions dire, nous, c'est de dire que tout le monde m'admire, que tout le monde me loue, parce que mes œuvres règnent sur eux et ma doctrine doit demeurer éternellement. Le psaume dit le contraire. Ce n'est pas vos mérites qui vous doivent inviter les gens à vous adorer ou à vous admirer, mais simplement à vous tourner vers un plus grand que vous, qui est le Dieu d'amour. Et l'amour de Dieu, donc, je vous l'ai dit, le psaume, il le qualifie comme puissant. Fort ou puissant est l'amour de l'Éternel. Ça, c'est intéressant aussi parce que cela montre que cet amour de Dieu n'est pas un amour mièvre. « Oh, c'est bien, Dieu m'aime, Dieu est gentil, c'est sympathique, c'est touchant, tout ça. » Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est un amour puissant. C'est un amour fort. Gavar, en hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour désigner les guerriers. C'est-à-dire, c'est un amour qui bouleverse, un amour qui transforme, un amour qui renouvelle, un amour qui ressuscite, un amour qui guérit. Et je crois effectivement que le fond de l'Évangile, il est là. Il y a un Dieu qui m'aime. C'est inacceptable, inadmissible. Moi, je suis peu de choses, je suis pécheur. Et bien que cet amour de Dieu, on arrive à en prendre tellement conscience que ça nous bouleverse et que ça nous transforme de l'intérieur. Parce que cet amour peut transformer des vies, il peut bouleverser des existences, il peut changer des cours de vie et faire de très, très grandes choses dans l'existence. Et David continue dans ce psaume en disant « Car puissante donc est son amour pour nous. » Vous n'aviez pas vu ça encore, je vous ai dit, il fallait regarder en détail le psaume. « Pour nous » ou « sur nous ». Ça, c'est étonnant, ce « nous ». David qui écrit ce psaume et qui met un « nous » qui englobe tout le monde, les peuples et aussi les païens. Ou encore, le psalmiste, si vous dites ce psaume, vous ne dites pas « parce que grande est sa bonté pour moi ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous. Et donc là encore, le psaume nous invite à sortir de notre égoïsme pour voir que l'amour de Dieu, certes, me transforme, mais que c'est aussi un amour dans lequel je suis en communion avec des frères et des sœurs, quelle que soit leur appartenance religieuse, ethnique ou autre. Fort est son amour pour nous. C'est la même chose d'ailleurs dans le Notre Père. Notre Père, tout au nous, ces demandes qui font en sorte que nous ne sommes pas des individus isolés dans un contact unique avec Dieu, mais que nous sommes dans une communauté. Et qui est ce nous ? Eh bien tout le monde, tous ceux à qui la parole est adressée. Et puis le psaume continue encore, c'est pas fini la leçon, en disant « Sa fidélité est pour l'éternité ». Alors la fidélité, ça c'est compliqué parce que dans le texte hébraïque, « emet », »,« emuna », c'est à la fois la fidélité et la vérité. Et suivant les traductions d'ailleurs, vous trouverez l'un ou l'autre. « Sa fidélité demeure pour l'éternité » ou « sa vérité demeure pour l'éternité ». La fidélité, c'est une très belle chose. Peut-être la chose la plus formidable après l'amour de Dieu qui nous est dit. C'est-à-dire que même si nous nous éloignons de cette grâce de Dieu, Dieu nous attend toujours, indéfectiblement, pour nous recevoir. Et Dieu, même si nous nous faiblissons, reste toujours fort, stable et fidèle. C'est la fidélité de Dieu. Dieu qui est inébranlable. Et qui est, je crois, la seule chose dans notre vie qui soit inébranlable. Tout ce après quoi nous nous attachons peut être balayé, bouleversé d'un instant à l'autre. Nous pouvons tout perdre d'une minute à l'autre. La santé, les enfants, la famille, la maison, la fortune, la richesse, le métier, tout. Seul Dieu est fidèle pour l'éternité, inébranlable. Parce que votre Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Et toujours, vous aurez ce Dieu avec vous qui vous accompagne. Toujours source inépuisable. Infinie patiente d'amour, de pardon, de paix et d'espérance. Ou alors on pourrait effectivement entendre, pas tellement fidélité dans ce cas-là, mais vérité. Ah, la vérité de Dieu demeure pour l'éternité. Ah ça c'est pas mal ça, parce que depuis le début on nous dit c'est l'amour, l'accueil, la bonté, la douceur, etc. Oui mais... est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, une vérité ? Une vérité. Il y a une vérité de Dieu. C'est les deux choses essentielles, peut-être. Le couple fertile, amour et vérité. L'amour pur, c'est une sorte de chose molle, qui est bien agréable, confortante, mais qui ne fait pas forcément grandir. La vérité, c'est ce qui nous aide à grandir, qui nous fait comprendre qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et la vérité du monde. Mais la vérité est dure. L'amour est doux, mais la vérité est dure. Mais l'amour sans la vérité, c'est peu de choses, et la vérité sans amour, ça nous tue. Et donc je crois que justement l'amour de Dieu, voyez-vous, n'est pas un amour qui nous trompe en nous faisant croire qu'on peut rester comme on est, qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne peut rien faire. Mais c'est un amour vrai, qui nous rappelle aussi qui nous sommes. Mais c'est une vérité qui ne nous écrase pas, qui ne nous écrase pas dans notre péché, parce que cette vérité de Dieu, elle est aussi amour. Et ça, c'est, je vous disais, je comprends pourquoi Luther a tant aimé ce psaume, parce que là encore, c'est la base de toute la théologie de Luther, qui disait, le fondement de l'histoire, c'est que l'homme est à la fois pécheur et pardonné. L'homme est pécheur, c'est la vérité. Ben oui, vous êtes mauvais, vous êtes faible, vous avez raté, vous avez fait plein d'erreurs dans votre vie. Ça, c'est la vérité nue, pure et vraie. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais l'homme est aussi pardonné. C'est-à-dire, et alors ? Néanmoins, Dieu t'aime, tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre, tu as le droit de te relever, de te remettre en marche, et tu as le droit d'être et de te présenter dans le monde, devant les autres et devant Dieu. Et donc l'homme est à la fois pécheur et pardonné. Il faut arriver à maintenir les deux. Si je suis trop pécheur, alors je suis plein de complexes et je ne fais plus rien. Si je suis trop pardonné, alors je me fiche de tout. Mais il faut savoir que la vérité, c'est que je suis pécheur, et mais néanmoins que je suis pardonné. Le fait d'être pardonné ne m'enlève pas que je sois pécheur, et le fait que je sois pécheur n'enlève pas que je sois pardonné. Vous regarderez la prochaine fois la liturgie du culte du dimanche, tout tourne autour de ça. Et donc il y a une vérité, je vous ai dit la vérité de Dieu, parce que la vérité de Dieu, ce n'est pas simplement de dire ce que nous sommes. Je crois que Dieu se fiche un peu de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait et de notre passé. Ce qui compte pour Dieu, sa vérité, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est-à-dire que la vérité de Dieu, elle est en avance sur ce que nous sommes. Et Dieu dit, tu peux faire ça, ça c'est la vérité. Dieu dit, il y a là quelque chose pour toi, il y a là un chemin pour toi, ça c'est la vérité. Donc la vérité de Dieu, elle est créatrice. Et c'est peut-être ça le plus essentiel. Quand Dieu dit, la lumière est dans la création, c'est faux, il n'y a pas de lumière. Mais quand Dieu dit la lumière est, moi je vous assure, la lumière, elle arrive. C'est-à-dire que la vérité de Dieu, c'est une vérité en avance sur ce qui est. Et c'est pour ça d'ailleurs que les 10, ce qu'on appelle les 10 commandements, eh bien vous verrez, les 10 commandements ne sont pas des impératifs, mais des futurs. Tu adoreras un seul Dieu, tu n'auras pas, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne commettras pas d'adultère, etc., tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ce sont des futurs, c'est-à-dire ce sont des promesses. Et donc nous avons un amour vrai et créateur, une parole qui fait du neuf en nous. Et puis enfin, donc, ce psaume termine, dit Luther, par une exhortation, Alléluia. C'est l'hébreu, Alléluia. Alors évidemment, si on le traduit, ça fait Loué soit Dieu, Loué l'Éternel. Et c'est une exhortation. Que faire en réponse à l'amour de Dieu ? À sa fidélité, à sa vérité, eh bien, mes amis, une seule chose, louange et action de grâce, c'est-à-dire se reporter à plus grand que soi. Louer Dieu, rien d'autre n'est imposé, pas d'acte religieux, pas de morale, rien. Mais c'est la conscience de l'amour et de la fidélité de Dieu et le fait de pouvoir le louer qui doit être le cœur de toute notre vie, de toutes nos décisions, de notre façon de vivre, de notre vie profane et religieuse. Parce que si le cœur est bon, les fruits aussi seront bons. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car puissante est pour nous sa bonté et sa fidélité est pour l'éternité. Louez l'Éternel. Amen. Nous chantons le cantique 173, Alléluia, louange à Dieu, 173, les trois premières strophes. Vous asseoir. Voici quelques annonces concernant la vie de cette communauté. Tout d'abord, donc, je ne suis pas le prédicateur habituel de ce temple de l'Étoile, puisque nous avons fait un échange de chair. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux pasteurs Pernaud, il y a Louis, il y a Marc. Donc moi je suis Louis et mon frère Marc, pasteur ici, m'a remplacé chez moi à l'Étoile et moi de l'Étoile je suis venu ici. Voilà, on a fait un petit échange. Donc c'était quand même un pasteur Pernaud. Je crois qu'on dit à peu près les mêmes choses l'un et l'autre. Et d'ailleurs nous préparons la plupart de nos prédications ensemble. Je crains donc que ça ne soit pas très dépaysant pour les habitués d'ici même. En tout cas, c'était un plaisir de partager ainsi la parole avec une communauté sœur. Cette semaine, il y a mercredi de 12h30 à 13h30 une étude biblique sur la prière de repentance et le pardon, Genèse 50. Donc mercredi prochain, 12h30, 13h30, en face, 4 rue de l'Oratoire, étude biblique. Je pense par le pasteur Pernaud Marc. Et dimanche prochain, le culte sera présidé par le pasteur Pernaud Marc, cette fois, donc mon frère. Et il y aura au cours de ce culte un temps de mémoire de la Saint-Barthélemy, puisque vous savez que la Saint-Barthélemy, c'est le 25 août. et qu'il y a la statue en mémoire de l'amiral de Coligny qui a été défenestrée à cette occasion, non loin d'ici. Et voici maintenant le moment de l'offrande, où nous donnons à Dieu ce que nous avons résolu de lui donner, en signe de reconnaissance pour la grâce qu'il nous offre et de responsabilité pour que l'Église puisse vivre et rayonner. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux. Nous nous unissons dans la prière. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous les dons de ton amour, pour la communion de ton Église où nous nous trouvons réunis, pour ta parole vivante, source de lumière, de nourriture et de vie, et pour cet être nouveau que tu peux dresser en nous à chaque instant, pour ton royaume, pour ton service et notre joie. Oui, Seigneur, nous t'en rendons grâce. Maintenant, nous voulons te prier, remettre entre tes mains tous ceux qui ont été confiés à notre amour, pour nos bien-aimés, pour ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Et pour chacun, pour tous ceux en particulier qui sont douloureux, éprouvés, solitaires ou accablés, sois avec eux. Et permets que nous sachions être dans ce monde des témoins actifs, rayonnants et généreux, pour donner à ceux que tu nous confies ce que tu veux leur donner par nous. Et ensemble, dans une même volonté de te servir et de nous confier à toi, nous pouvons te dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, maintenant je vous recommande à Dieu et à cette grâce qu'il nous a promise. Ayez comme ses élus, ses saints, ses bien-aimés des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Nous recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans sa force et dans sa joie et dans sa grâce. Amen.